I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Laurent Binder, Cédric Châtelucé, Maïwenn Le Jehan. Autour de moi, ce soir, en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, où nous vous attendons tous les vendredis, Lucille Como, Muriel Joudet et Lily Blum. C'est une première pour Lily Blum qu'on est très heureux d'accueillir. Si je disais que la réalisation était de Thomas Beau, je serais tout à fait complet dans mon annonce. Autre annonce, notre programme, notre affiche, les Frères Sisters de Jacques Audiard, Leave No Trace de Debra Granik et Avant l'Aurore de Nathan Nikolovitch. Il y aura bien sûr aussi un coup de cœur ce soir, c'est celui de Lucille Como qui bat pour la série Insecure. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour la rétrospective Bernard Venet, c'est jusqu'au 6 janvier au Musée d'Art Contemporain de Lyon. Nous ouvrons cette dispute avec le retour de Jacques Audiard avec son film post-Palme d'Or, Les Frères Sisters, d'après le roman de Patrick DeWitt, un western donc, avec des acteurs américains tournés en Europe, dans lequel nous allons suivre deux tueurs à gages.
Oh, fuck that up real good. How many do you think we killed?
I don't know. 6, 7.
We didn't even get his horses back.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me, yeah.
A bit of comfort in uncertain times.
And I'm feeling good.
S-I-S-T-E-R-S, sisters, like sisters. We are the sisters, brothers. You and me. You're not scared to reproduce yourself?
River running free, you know how I feel. Blossom on the tree.
Your friends are on their way here to torture me.
You do realize that our father was stark raving mad and we got his foul blood in our veins?
To torture
me. That blood, that's why we're good at what we do.
Pas la chanson du nouveau James Bond, cette chanson qui n'est absolument pas dans le film. Le film s'appelle Les Frères Sisters. Muriel Joudet, vous avez vu ce film et c'est vous qui commencez à nous en parler.
Oui, alors, je suis pas une très très grande fan de Jacques Audiard.
Comme ça m'étonne pas.
Voilà,
bizarrement.
Et du coup, quand j'ai appris qu'il faisait un western, je me suis dit, ah, ça va faire mal, parce que c'est un genre, évidemment, qui est tellement ancré dans le paysage américain, qu'on se demande ce que peut en faire un cinéaste comme Jacques Audiard. Et tout de suite, on se dit que ça va être une sorte de virtuosité qui tourne à vide, et que Audiard va pas réussir à s'approprier ce genre-là, et va vouloir épater son monde. Et c'est pas du tout ce qui arrive. Et ça qui m'a vraiment surprise, je pense que c'est le premier Audiard que j'aime depuis Un prophète, parce que il prend le problème par le bon bout. C'est-à-dire que au lieu de vouloir faire des morceaux de bravoure, au lieu de vouloir épater, de faire une sorte d'éloge de la virilité, d'éloge voilà, de filmer des paysages à couper le souffle, il prend le western parce qu'il a de plus profane, de ce qu'il a de plus quotidien, qui est cette relation fraternelle entre donc ces deux frères sisters dont j'ai pas retenu les prénoms. Et donc, il n'y a absolument aucune démonstration de puissance. Il n'y a aucune scène qui est là pour épater. Il y a une sorte de, juste de flux continu, de maîtrise. Tout le film est très maîtrisé, à mon sens. Et ça me dérange pas, de maîtrise, de virtuosité, d'agilité. Je le trouve extrêmement agile. À chaque fois qu'il y a un problème de mise en scène à résoudre, il le fait sans sortir les muscles.
Et trois petits points, parce qu'on va faire circuler la parole. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, parce que j'avais envie que vous en gardiez un peu sous le coude, sous la semelle. Et si je faisais une petite moue étonnée sur un certain de vos propos, c'est pour mieux les commenter dans un instant. Mais parole à Lily Bloom pour premier regard sur ce film de Jacques Audiard.
Oui, bien moi, justement, c'est sa singularité qui m'a plu. Il y a quelque chose. Il a réussi, c'est un film de commande, il faut le dire. Il a réussi à en faire quelque chose de très personnel. Le film est dédicacé à son grand frère disparu trop tôt, et ce n'est pas un détail. Et c'est moi ce qui me plaît dans ce film-là, c'est qu'il c'est vraiment véritablement un film vertical. C'est-à-dire, il part d'un fantôme de frère disparu, il se confronte à une commande dans un genre western, et d'un seul coup, au fur et à mesure du film, les contours du western s'effacent, et il nous raconte une histoire beaucoup plus universelle. Ça se transforme en une ode filmique à la folie des hommes, à l'impossible fraternité, et c'est vraiment éblouissant. Il y a toujours une singularité dans sa façon de traiter les cow-boys, parce que moi j'ai jamais vu des cow-boys dont la masculinité était aussi malmenée. C'est des cow-boys qui peuvent d'un seul coup pleurer pour un cheval borgne qui a été embrasé, qui vont d'un seul coup pouvoir poser leur flingue pour un mot juste, pour quelqu'un qui d'un seul coup les regarde, et c'est une masculinité, moi, qui m'a troublée là-dedans, et il questionne un endroit du genre qui m'intéresse. Et par exemple, il y a un moment qui est très intéressant où d'un seul coup, un des frères, qu'on prend vraiment pour une brute, s'empare d'une brosse à dents et essaye de comprendre comment ça marche. Et en fait, ça devient un symbole très fort d'une évolution nécessaire de l'homme. Et moi, ça m'a beaucoup touchée.
Lucille Comeau, premier regard sur les frères sisters.
Oui, en fait, ce qu'il fait Audiard, c'est qu'il joue à l'intérieur de la forme western qu'il exploite quand même à son plein, parce qu'on sent que ça lui fait plaisir, le scope, les grandes scènes. Il y a une scène, par exemple, où les deux frères atteignent la mer en Californie. Alors, il se fait plaisir avec des grands plans d'ensemble sur les paysages. Et à l'intérieur de ça, en effet, il essaye, ce qui est, à mon avis, à la fois la force et la faiblesse du film, de faire rentrer du drame familial, qui est plutôt français. Pour le coup, c'est là où la veine française, peut-être, on la sent un petit peu. Et du coup, de la psychologie, c'est ce que vous disiez, Lily, tout à l'heure, c'est que du coup, ce qui importe, c'est la relation entre les frères, et c'est surtout la relation entre les frères et leur père, puisque la question de l'hérédité, de la transmission, de la violence, évidemment, parce que chez Audiard, c'est toujours ça la question, entre père et fils, vient s'intégrer à l'intérieur de la forme western, et ça convient très bien. Moi, je trouve ça assez mécanique, parfois presque fourré un peu de force, et le couple des frères, paradoxalement, m'a un peu lassé. Au bout d'un moment, je trouve que leur scène de confrontation, jusqu'à une grande scène de confrontation finale dans un restaurant très chic à San Francisco, est très amené. On sent la lourdeur qui s'installe dans les mécanismes psychologiques, alors qu'il y a un autre couple dont on n'a pas parlé, constitué d'un homme qui le cherche, ou qui n'est pas un tueur à gages, mais qui est une sorte de détective privé, exactement, et d'un autre homme un inventeur qui s'appelle Herman, et qui lui a découvert une sorte de potion soi-disant pour faire apparaître l'or à la lumière dans l'eau. Ce couple-là intervient, leur relation arrive d'un seul coup sur le plateau, j'allais dire, à la fin, et une relation un peu amoureuse, dont on peut imaginer qu'elle l'est en tout cas, et qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressante, et qu'on a trop tard, à un moment où le film s'effiloche, moi je trouve, dans son action. J'ai trouvé le film très long, je me suis vraiment ennuyée, pour le coup, et moi, on va en reparler, mais je commence à avoir un problème avec la façon dont Audiard filme les hommes et la répétition du motif de la virilité, même si elle est blessée, de fait, c'est toujours la question de la virilité, et choisir le western, c'est encore une fois choisir un milieu sans femmes, même quand il y a des femmes. On ne sait pas si c'est des femmes ou des hommes. Et moi, ça commence à me poser un problème quand ça s'articule à la démonstration de la violence. Il y a quand même des scènes extrêmement violentes qui parfois sont un peu gratuites. Moi, j'avoue, ça me lasse, en fait. Ce n'est pas une question idéologique. Je me fiche un peu du fait de pourquoi pas filmer que des hommes. C'est un choix esthétique. Mais je me lasse de ce choix esthétique-là.
Pour revenir sur la question de la violence, moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup plu dans ce film, qui est aussi mon préféré d'Audiard depuis Un prophète, et mon préféré d'Audiard, peut-être tout court, avec un prophète, même s'ils sont très différents. Ce sont les premiers plans du film, vraiment, où on a une fusillade dans la nuit, filmée de très loin, où on n'a que les éclairs des détonations des pistolets qui percutent la balle. Et je trouve que c'était quand même, au niveau visuel, une invention assez forte, assez belle. Enfin, il y a beaucoup de choses qui formellement sont très belles dans ce film. Donc, c'est filmé de très loin, une forme d'abstraction, même si on entend bien les voix et on voit bien qu'il y a une scène un peu ridicule qui se joue d'assaut d'une maison. Et puis, il va se rapprocher et filmer des choses très effectivement violentes, de très près, très fort, comme il a l'habitude de le faire normalement à la fin de ses films. Et là, le fait qu'il l'ait placé au début et qu'il fasse le chemin inverse de ses films précédents pour aller vers, on ne dira pas comment, une forme de douceur, on va dire ça comme ça, pour laisser le suspense à celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Oui, vous pouvez rouler des yeux, Lucille, mais on ne peut pas vraiment parler de la fin, on ne va pas gâcher le plaisir et divulgâcher la fin. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau pied de nez aux gens qui, comme vous, Lucille, n'aimaient pas se poser des questions sur le virilisme chez Audiard, qu'on accuse volontiers de tout et son contraire. Je pense que c'est, vous le connaissez bien pour l'avoir interviewé longuement sur cette antenne dans les masterclass de France Culture, qui avait revu tous ses films l'an dernier, je pense. Moi, je suis pas aussi persuadé que vous qui est ce penchant à vouloir ne pas filmer des femmes. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec le cinéma de Jacques Audiard, alors qu'il a mis des femmes en valeur dans De rouille et d'os, dans Sur mes lèvres. Oui, ben, si, il y avait quand même des rôles de femmes tout à fait importants. En tout cas, là, je trouve qu'il a, je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou film de commande, mais on l'accepte ou pas la commande. Et je pense que s'il l'a accepté, c'est pas un hasard. Il y a une forme de prise à revers de ces possibles détracteurs et détractrices. Vous vouliez intervenir sur ce que disait Lucille Comolini Bloom.
Non, oui, moi, parce que, par exemple, le fait qu'il parle, moi, ça m'a pas du tout lassé. Deux cow-boys qui jacassent, alors qu'ils sont,
parce qu'on peut dire philosophe,
mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'utiliser ce terme-là parce qu'au début, leur dialogue est vraiment très très pauvre et c'est vraiment leur langage va se délier au fur et à mesure qu'ils avancent. Et c'est vraiment un mouvement et de la pensée et physique qui va les accompagner jusqu'au rebord du connu, de la mer, qui manifeste une limite. Et c'est cette limite-là qui m'intéresse aussi. Et il y a un double mouvement. C'est vraiment, on sent les prémices de la psychanalyse. C'est vraiment leur lien, ce précis, ce délit est très touchant. Moi, au fur et à mesure du film, quand les rôles s'inversent entre les personnages, entre les frères, j'étais de plus en plus fascinée par eux. Et surtout, voilà, on comprend qu'il y a un double mouvement. Ils sont en train de traquer quelqu'un, mais ils sont aussi en train de fuir. Ils fuient un parricide, ils fuient le mal qui court dans leurs veines et ils essayent de le combattre. Et moi, au contraire, c'est plus le film avançait, plus leurs mots tentaient d'avancer, plus j'étais intéressée par ce qu'ils racontaient.
Muriel Jodet.
Oui, peut-être pour rebondir sur cette histoire de virilité, c'est vrai que le western, finalement, est très naturel chez Audiard, puisque le genre épouse la forme de l'univers d'Audiard. Mais là où je trouve que le film est très réflexif sur le genre, je pense que Audiard est un très grand connaisseur du genre, c'est que, justement, quand on va au bout de cette virilité, de ce virilisme, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, y a l'homo-érotisme, et il est vraiment généralisé à absolument tout le film. Mmh. Et ça, c'est, et en fait, on se rend compte que le western, c'est ça. Vous regardez Rio Bravo, vous regardez n'importe quel western.
Rouge.
Voilà, c'est ça. C'est des films totalement homo-érotiques.
Un dialogue sur le. Tu as un beau pistolet, il est plus gros que le mien.
Voilà, c'est ça.
C'est le western, genre.
Ce n'est que ça. Après, c'est vrai qu'il y a toujours une touche de féminin dans les westerns. Audiard, on sent qu'il prend un malin plaisir à la fois à la mettre, et bon, elle est à la fois présente et absente. Il y a une mère quand même au bout d'un moment. Là, je pense qu'il y a un petit clin d'œil. Enfin voilà, il y a la haine du père, l'amour de la mère. Ça, je trouve ça. Voilà, donc il y a à la fois une sorte de d'autopsychanalyse d'Audiard, de réflexion sur son propre cinéma et de réflexion aussi sur le genre du western, qui est assez étonnante de la part d'un cinéaste français. Je trouve ça assez habile et puis très modestement amené. Il fait pas, voilà, il sort pas les gros bras et moi ça me le rend infiniment sympathique d'un seul coup.
Moi je trouve qu'il fait pas le malin. Je sais pas comment vous le disiez tout à l'heure, Lucille Comeau, par exemple, quand vous parliez de l'arrivée au bord de l'océan Pacifique, il s'attarde pas.
Ah non, mais alors j'ai pas du tout dit qu'il faisait le malin. Je dis qu'il on voit le plaisir qu'il a à entrer dans des codes et dans des motifs du genre. Au contraire,
mais
ça m'a vraiment
pas,
plutôt
justement.
Plu. Ouais. Oui, je suis d'accord. J'ai trouvé le film vraiment. j'ai trouvé que c'était un beau film, je l'ai trouvé long et j'ai trouvé qu'il y avait des lourdeurs et je me lasse en fait des mécanismes que je vois beaucoup. Peut-être en effet c'est parce que je les ai tous vus, comme vous l'avez rappelé, très vite il y a peu de temps, mais j'ai l'impression de voir beaucoup de choses que j'ai déjà vues dans son cinéma. Et juste pour rebondir sur l'homoérotisme, c'est intéressant parce que j'ai lu le début du roman dont est tiré le film, et le personnage d'Hermann, donc c'est le personnage d'inventeur qui est le personnage que tout le monde suit finalement, qui est tout le monde et qui aimante absolument tous les autres personnages masculins. Dans le roman, c'est une sorte de brute, un personnage pas du tout séduisant, un peu bedonnant. Et là, il en fait vraiment avec cet acteur-là. Il choisit un acteur qui est beau, qui est extrêmement charmant, qui est un intellectuel, qui fait tâche même parmi ces espèces de brutes qui peuplent ces sortes de camps de migration que sont les premières villes américaines à l'ouest. Oui. Et ça, c'est très symptomatique en effet de ce que vous disiez toutes les deux. C'est qu'il a envie de plus en plus, on sent, de filmer ça, l'homoérotisme, les relations amoureuses entre hommes. Mais je ne suis pas sûre que ça compense pour autant la question féminine. Moi, j'aimerais qu'il se confronte plus à des milieux qui ne facilitent pas autant cette réflexion-là que je trouve beaucoup vu maintenant dans son cinéma. Et comme c'est un très bon cinéaste, on a envie de voir autre chose, quoi. C'est plutôt positif.
Lily Bloom, enfin.
Il y a un point pour répondre à ça. C'est ce qui est étonnant, c'est que le seul méchant qui est puni dans le film, c'est une méchante. C'est Mayfair. C'est une femme qui a osé donner son nom à une ville. Et donc, c'est la seule qui est punie. Parce que ce qui est intéressant dans le film, finalement, qui est anti-idéologie américaine, idéologie dominante, c'est que finalement, le bien n'est pas récompensé. Au contraire, il est laminé, détruit, défiguré, et le mal, pas n'importe lequel, pas celui représenté par le Commodore, la puissance suprême organisée en institution, non, le mal médiocre, vraiment la violence la plus primaire, archaïque, est récompensé. C'est elle qui survit et qui laisse son empreinte sur le territoire. Et donc ça, je trouve ça à la fois cynique et intéressant.
Boris Pinot, commentaire sur les réseaux ?
Oui, VLR sur Twitter ne sait pas bien quoi, mais trouve qu'il manque quelque chose au film d'Audiard. Pourquoi, s'est-il demandé, n'ai-je pas été pris, captivé comme je le suis avec les westerns classiques ? Et de conclure avec cette question, en fait, est-ce un western ?
Alors, est-ce un western ? Lucille Gomeau.
Ah non, alors vraiment, je ne suis pas du tout spécialiste est-western. Je m'ennuie beaucoup, beaucoup devant les westerns, donc je ne vais pas répondre.
C'est un western de la fin de l'âge du western. C'est un western de la des Peckinpah, des.
L'époque n'est plus du tout western. C'est un genre qui appartient au classicisme hollywoodien. Après, tout grand western est à la fois au-delà du western. C'est-à-dire qu'il y a. Si ça n'était qu'un western, peut-être que ça serait problématique.
Lily Bloom.
Pour un Maurice, mais ça transcende le western. Voilà, en fait, il y a eu une dizaine d'années où il n'y avait que des néo-westerns, des méta-westerns qui se regardent un petit peu le nombril. Et puis d'un seul coup, il y a celui-là qui se réapproprie avec grâce le genre.
Passons le genre, il sert qu'à parler de sujets intimes et propres aux cinéastes, aux grands cinéastes qui les filment. Bon, les frères Sisters, on regardera ce que ça fait comme entrée dans les salles, parce qu'il peut y avoir sur un malentendu beaucoup de gens qui disent « Ah, chouette, un western d'Audiard, ça va,
il
va y avoir du sang et... »
quelque part. Et...
Quoi ?
Il n'y a pas trop de raisons que ça ne marche pas avec le casting.
J'espère, moi.
Il y a beaucoup de gros films qui sortent chaque semaine, et l'humeur est plutôt à la comédie, si on voit les chiffres de première année, si on voit les chiffres de photos de famille qui ont eu les premières places les deux dernières semaines. On verra. Les frères Sisters de Jacques Audiard, qui a eu le prix de la mise en scène quand même, à la Mostra de Venise, ils ne se sont pas trompés, à mon sens. Il est sorti donc mercredi à suivre dans la dispute, Leave No Trace de Debra Granik, Avant l'aurore de Nathan Nikolovitch et puis le coup de cœur de Lucille Comeau.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Le deuxième film à notre affiche, donc c'est Leave No Trace de Debra Granik. Je ne l'ai pas encore vu, mais je peux vous en lire le synopsis. Oui, mais moi, je suis pas obligé de voir tous les films. Rajoutez, ne faites pas la manine parce qu'on va comprendre tout à l'heure, et je le dis dès maintenant, que vous avez séché un des trois films.
Moi, j'en ai vu un autre.
Vous savez, moi, je suis tous les soirs à l'antenne, vous savez, avec trois sujets à traiter. Donc, quand je ne peux pas, je le dis. Ah, vous avez lu un livre?
Je vais en parler, peut-être.
Il faut venir à la dispute, on en a trois chaque semaine, si vous voulez. Bon, le synopsis de Leave No Trace. Tom a 15 ans. Tom est une fille. Elle habite avec son père dans une forêt. On est à côté de Portland. Oregon, mais cette famille qui vivait après, enfin, ce famille en binôme qui semblait avoir trouvé une vie, une forme de vie dans cette forêt, va en sortir ou en être sortie. Vous allez m'expliquer tout cela, et il va falloir se confronter à la réalité du monde moderne.
We don't have any record of you going to school. Who taught you how to read?
My dad teaches me.
I want you to tell me a little bit about your dad.
Drill.
Does he hide things?
No.
He burned. Your tracks are all over the place.
Yeah, I can do this.
Well, then do it well.
Does he have weapons? Anything that might hurt somebody?
No.
Do you feel safe living with your dad?
Yes.
It's not a drill.
Hey.
He's got him. Cooperate. We haven't done anything wrong. Cooperate.
Dad!
Your dad needs to provide you shelter and a place to live.
He does.
We'd like to go back to the way we were living.
It's important for you to follow through so you guys can remain independent.
Everything's different now.
You can still think your own thoughts. I won't be gone long.
Where do you live? Where's your home?
With my dad.
Leave No Trace de Debra Granik, sorti sur les écrans mercredi. Je vais en savoir plus d'abord grâce à Lily Bloom.
Bah écoutez, c'est une histoire. Alors, il faut savoir, Debra Granik, on l'avait connue avec Winter's Bone, c'est une cinéaste rare qui a vraiment une approche très documentaire de ses sujets. Et là, quand elle filme donc, cette aventure-là, c'est un film qu'il faut approcher d'une manière singulière. C'est une cinéaste singulière dont il faut approcher les films d'une manière singulière. Moi, pour ma part, je trouve que c'est un cinéma de la soustraction et moi, j'ai dû aussi soustraire toutes les influences que j'avais pour bien apprécier son film. Il faut entendre que quand on parle d'une histoire d'un père avec sa fille dans la forêt, on a des images d'Into the Wild, on a des images de Captain Fantastic avec Viggo Mortensen.
J'ai vu aucun des deux, donc j'aurais pas été gêné en même temps.
Non, mais qui moi, ouais. ont fait ouais. une sorte voilà, d'obstacle à la bonne compréhension du film. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quelque chose d'autre qui est vraiment mais à l'os. En fait, elle filme ces personnages-là dans leur incapacité à faire face au monde réel, en tout cas le père. Et tout ce que j'imaginais sur le film s'est déconstruit. Et en fait, le film est un magnifique portrait d'une jeune femme qui doit s'émanciper et apprendre à s'arracher de tout ce qui a été sa pensée pendant des années, tout l'affect qu'elle avait dans cette forêt. Et dans ce déracinement doux, lent, d'une extrême violence, en fait, ce qui est très beau, c'est qu'elle ne nous force pas à ressentir des émotions, on les ressent ou pas, malgré soi, sur un élément. Et cette liberté est très très précieuse. Après, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre des films d'utilité publique qu'elle étudiait quand elle était jeune. C'est formidablement intéressant. En même temps, ça demande un effort. Voilà, c'est pas un film qu'on va regarder...
Mais quel genre d'effort, pour vous?
Bah voilà, déjà, de savoir se calmer, ne pas attendre d'être distrait. Ne pas, voilà, c'est un cinéma exigeant, voilà, qui n'autorise pas voilà, de s'attendre à ce qu'elle nous donne la béquée.
Bon, moi ça me donne plutôt envie, hein, ce que vous dites, Lily Bloom. Lucille Como.
Moi j'aime beaucoup ce film, j'avais énormément aimé Winter's Bone, plus que celui-là qui avait été une grande découverte pour moi et qui en effet s'intéressait aussi à la fois au même type de personnage, à savoir cette Amérique blanche qui vit en marge, donc qui peuple tout un pan du cinéma américain aujourd'hui, sauf que elle, à mon avis, elle en fait vraiment quelque chose de différent, elle le filme différemment. Et elle le filme de manière très géographique. En fait, c'est vraiment un cinéma qui parcourt la marge et qui montre à quel point la marge, c'est pas juste une toute petite bande sur laquelle circulent des personnages qui sont stéréotypés, mais qu'il y a plein de manières différentes d'être à la marge. Et donc, ce père et sa fille, en fait, ce qui se passe pendant tout le film, c'est qu'ils rencontrent des autres personnages qui leur ressemblent, en fait, mais qui sont tous plus ou moins à la marge de ce que peut être la grande société américaine telle qu'on peut l'imaginer, donc urbaine, intégrée, connectée, etc. Donc ils vivent totalement déconnectés et en effet, comme vous l'expliquez, ils sont arrachés de leur espèce d'éden forestier par des gens qui, encore une fois, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, des gens qui les prennent en charge de manière plutôt empathique et avec de la bonne volonté, mais ça ne fonctionne pas parce qu'elle veut s'intégrer, elle a a 14 ans ou peut-être 15 ans, donc bon, ça lui va en fait de rencontrer d'autres gens, de rencontrer d'autres jeunes personnes. Et le père, lui, dont on comprend assez vite que c'est un vétéran de la guerre d'Irak ou d'Afghanistan, lui ne s'en sort pas, il a besoin de fuir tout le temps. Et donc le film est construit très géographiquement, selon des principes de fuite, d'aller et retour. Et c'est en effet ce que vous le disiez, Lily, est très juste, on ne sait pas où il va, ce film. Moi, je trouve que c'est une des grandes forces, parce que dans ce type de film américain un peu social, balisé. C'est archi fléché. On sait quelle sera la forme de la déchéance ou de la rédemption. Là, en l'occurrence, ça n'est pas du tout fléché. C'est absolument impossible de savoir ce qui va se passer. Bon, après, on va parler des interprètes. Moi, je trouve que ça tient, la justesse du film tient à la fois aux dialogues qui sont rares et extrêmement bien écrits, notamment les dialogues qui relient les deux personnages du père et de la fille, et des deux interprètes qui sont d'une justesse. C'est assez impressionnant. Dans Winter's Bone, c'était Jennifer Lawrence qui jouait la jeune fille, qui est un peu le même type de personnage. Moi, à cette époque-là, je crois que je ne connaissais pas Jennifer Lawrence parce qu'on n'avait pas encore vu Hunger Games et tout ça. Elle était mais incroyable. Et là, on a à nouveau, je trouve, l'émergence d'une actrice, d'un visage, d'un corps, d'une figure féminine américaine qui vraiment est une figure qui restera, je pense, dans ma mémoire.
Bon, j'ai encore plus envie. Est-ce que Muriel Jodé va tempérer mon enthousiasme naissant?
Je ne sais pas encore ce que je pense exactement du film, je l'ai vu.
Bah, revenez la semaine prochaine si vous voulez.
Non, mais c'est vrai qu'en fait...
C'est bien que vous l'ayez vu déjà.
Oui, déjà. Non, c'est vrai qu'en fait, je me suis dit qu'on est vraiment aux racines du road movie. C'est-à-dire que c'est un road movie à pied, mais décharné. C'est-à-dire qu'on a les deux problématiques du road movie, qui est la recherche du foyer d'un côté, du home sweet home, et en même temps la fuite en avant perpétuelle. Donc le road movie, c'est un peu la recherche de ces deux choses, et là ces deux choses sont partagées entre deux personnages, et toute la question est de savoir comment ces deux aspirations, le foyer et la fuite en avant, vont pouvoir se concilier, et vont-elles se concilier. Alors c'est vrai que Debra Granig traite ça avec une sorte de calme, de délicatesse qui confine parfois à la fadeur, et je me suis demandé. Alors, c'est une fadeur qui est à double tranchant. À la fois, on est très attentif, pas captivé, mais attentif. On regarde vraiment le film en entier. Il y a quelque chose de presque reposant à voir un film à ce point serein, finalement. Tout est moyen et agréablement moyen dans le film, à mon sens. Et en sortant, je me suis dit, bon, est-ce que cette fadeur, ce calme, cette sérénité va me travailler, va me hanter ? Et j'avoue que ce n'est pas trop le cas. Oui, il manque quelque chose. Il manque un supplément d'âme en termes de mise en scène. Je trouve que la mise en scène est très pataude. Et j'ai aussi le sentiment que cette délicatesse est finalement quand même tenue par des grosses ficelles, que ce soit pour expliquer pourquoi ce père ne veut pas s'arrêter et donc il est atteint du syndrome post-traumatique. Ou même cette fin, je ne vais pas la raconter, mais la fin, je sens qu'elle n'a pas suffisamment les moyens en tant que metteur en scène pour me la faire avaler. Moi, je ne la comprends pas psychologiquement. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pas parce que c'est aberrant, parce que c'est un peu aberrant, mais parce qu'elle n'arrive pas à filmer, à mettre en scène cette dernière scène finale qui est quand même qui contredit tout le reste du film.
Bon, alors là, évidemment, je reste interdit devant cette énoncé, puisque n'ayant pas vu le film, mais par contre, ce que vous avez surtout manqué, ce sont les mimiques de Lucille Gomeau pendant que vous parliez. Muriel Jodé,
je suis sûr qu'elle m'a tiré la langue.
Ah non, elle est beaucoup mieux élevée que ça.
Les oreilles d'âne.
Non, elle était ébahie, consternée, effarée par chacun de vos propos, Lucille.
Non, mais alors, ce que je comprends pas, c'est vraiment le terme de fadeur, parce que moi, c'est un film qui m'a quand même mise dans des états.
Au Japon, c'est un compliment, quasiment.
Oui. Non, mais j'ai pleuré, j'ai pleuré, il y avait des moments où j'étais vraiment très, très, très embêtée.
Dieu sait qu'elle a un cœur de pierre, hein, vous savez.
Non, il y a quand même, il faut le dire, des moments où, en dessous du film social, s'ouvre quand même une sorte d'abîme, enfin, pour moi, je le ressens comme ça, quelque chose d'assez profond et qui est dur du conte. C'est quand même un film qui se passe quasiment entièrement dans la forêt, entre un père et une fille.
Forêt, oui, généralement.
Voilà, donc il y a quelque chose d'archaïque, de potentiellement dans le rapport père-fille, et puis après dans les parcours qui se mettent en place, qui sont des parcours avec des obstacles, comme dans un conte traditionnel. Il y a un passage, bon, je ne vais pas tout révéler, mais bon, c'est un passage où ça devient vraiment dur, où la question de la survie se pose, alors même qu'on est dans un film en effet réaliste, et la question de la survie, c'est la question de survivre au froid, de survivre à la faim. Moi, je trouve que c'est au contraire extrêmement bien mis en scène, ce passage-là, et que ça ouvre une sorte de profondeur émotionnelle que j'ai vraiment ressentie. Et je trouve la fin très juste, déjà pas du tout aberrante dans le fonctionnement des deux personnages. Et en effet, ils ont tellement peu de confrontations dialoguées que ça passe par des regards, par des choses qui sont pas du tout l'ordre de la parole. Mais moi, j'étais prise et j'ai trouvé cette fin justement magnifique et totalement en cohérence avec leur parcours à eux deux.
Bon, là, évidemment, je reste toujours interdit quant à la question de la fin, comme la plupart des gens qui n'ont pas vu ce film et qui écoutent la dispute. Lily Blum, commentaire par rapport à ces deux autres visions que la vôtre ?
Non, moi, ce qui m'intéressait, donc déjà, il faut quand même dire que c'était basé sur une histoire vraie et que, et moi, je pensais beaucoup, il y a un documentaire de Chantal Lazba, les entrailles de New York, qui parle des hommes taupes. Et là, pour moi, c'est l'équivalent, c'est-à-dire des êtres
en mode rural,
mais voilà, qui vivent à la frontière, voilà, invisible, mais juste à la frontière des villes ou sous les villes, et qui deviennent mythologiques. Les premières apparitions de la jeune femme quand elle arrive, c'est vraiment comme une dryade qui apparaîtrait aux jeunes joggeurs. Et donc voilà, c'est des personnages dont on fantasme l'existence, et là elle nous offre à les voir. Voilà, donc moi ça m'a plutôt intéressée. Alors effectivement, je rejoins un petit peu sur la question de la fadeur, mais elle parle d'autre chose. Voilà. Et moi, pour le coup, même malgré cette sensation un peu de rester sur ma faim, de difficulté, le film m'a hanté ensuite.
Ouais, sur la fin, dont je ne sais rien, vous trouvez ça cohérent, pas cohérent, bien mis en scène, pas mal mis en scène, Lily Blum?
Moi, je trouve ça très bien mis en scène, au contraire, comme une conteuse. Effectivement, ça échappe au réalisme, mais dans le conte qu'elle veut me raconter, ça me touche.
Bon, quand je verrai le film, je penserai à ce que vous avez dit toutes trois. Lucille, comment ?
Non, puis en plus, la violence sociale, enfin, on la sent. Moi, je trouve que c'est très fin parce qu'en effet, c'est pas manichéen. Mais par exemple, ce personnage de père, pour juste montrer que c'est pas une sorte de fil où il se passe rien, il a des moments
fade.
Où... Je trouve la mise en scène fait qu'on ressent parfaitement à quel point c'est insupportable pour lui d'être sédentaire, c'est insupportable pour lui de travailler. Par exemple, à un moment, il se retrouve dans une petite maison qui est en pleine campagne, mais bon, c'est pas la forêt, et il doit aider en contrepartie à l'arrachage, enfin le tronçonnage et arrachage de sapins de Noël. Mmh. C'est complètement absurde, c'est des espèces de plantations. J'ai pensé au coup de cœur de Charlotte Garçon de vendredi dernier, des plantations
forêts,
de sapins,
ouais.
Voilà, qui sont faits pour être des arbres de Noël, et le bruit des hélicoptères. Parce que les hélicoptères amènent les sapins, la tronçonneuse, on sent à quel point ce n'est pas possible de vivre comme ça. Et moi, je trouve que faire sentir ça sans aucun dialogue, juste par la mise en scène, le son, c'est quand même assez fort. Ça crée des pics et des petites montagnes russes dans le fil, dans l'émotion qu'on peut avoir au fil du film. Je trouve vraiment pas que c'est un film plat, en tout cas.
Ouais, Jodé.
Non, mais c'est vrai que le film a quelque chose de presque d'irréprochable, en fait, mais qui me laisse à distance. Vous voyez,
non, mais je vois très bien ce que vous voulez dire.
Je vois tout, c'est vraiment bien écrit, il y a plein de belles choses, tout est la relation entre cette fille
mais
et son père.
Ça n'agit pas sur vous.
Ça n'agit pas du tout, mais voilà, je constate de loin qu'il est irréprochable.
Ça n'est pas arrivé jusqu'à vous.
Non.
C'est passé, resté derrière la vitre.
Voilà, mais encore une fois, je vois exactement tout ce que vous y voyez, Lucille, mais pas intimement et pas, voilà, il y a pas d'émotion de ma part.
Lily Blum.
Non, moi, je pensais juste que c'était parce qu'elle a vu la pièce quand elle faisait le film, c'est La Tempête, ouais. Avec le père Prospero et sa fille Miranda sur une île loin du monde après un naufrage. Et donc, ça l'a beaucoup interpellée d'être en train de faire ce film-là et de voir cette pièce-là qui résonnait si bien ensemble. Et donc, il y a quelque chose qui me plaisait. Alors, est-ce que je l'ai bien noté ? Voilà, la fille, elle notait un passage qui l'avait beaucoup marqué. C'était, donc la fille parle à son père, elle dit « Des fois, j'ai l'impression d'être un fardeau pour toi ». Et le père répond « Non, ma fille, tu es l'une des raisons qui me permettent de conserver ma santé mentale. » Voilà. Et du coup, cette parenté entre les deux œuvres m'a touchée.
Lucille Comeau, on n'ajoute plus rien. Allez voir.
Non, Muriel n'a pas de cœur. C'est ma citation ultime.
J'ai jamais dit que j'en avais
un. Plus
d'accord,
dire.
On va la mettre en tête de la page internet de l'émission du jour. Muriel Jodé n'a pas de cœur. Leave No Trace de Debra Granik est sorti dans les salles mercredi dernier. On va voir si Lucille Comeau a un cœur. Bah oui, elle a un coup de cœur, Lucille Comeau. Ce qui n'est pas le cas de Muriel Jodé, ce qui confirme votre théorie, hein, Lucille. Le coup de cœur pour Insecure.
Hey Mirabitch, you looking real clean, you looking real bad, you looking like a queen, it's been a long time, shouldn't have left you, but I gotta...
Hey, it's locked.
C'est fermé. C'est fermé, it's locked. Insecure.
Insecure,
qu'est-ce que c'est ?
Oui. Alors c'est un peu un coup de cœur, plaisir coupable, et puis en plus c'est pas un film, c'est une série. Alors c'est une série qui
ça,
dont la
hein.
saison 3 est diffusée en ce moment sur OCS. qui en fait a une histoire particulière parce que au départ elle a été créée par Issa Rae qui est à la fois la créatrice et l'interprète pour le web et c'était des toutes petites pastilles humoristiques diffusées sur internet et c'est devenu une vraie série télévisée à grand format et on imagine avec un peu de budget sous l'égide de HBO, la grande chaîne câblée américaine qui est plutôt un gage de qualité et de fait c'est une assez bonne série, très rythmée. Donc le personnage principal s'appelle Issa comme son interprète. Elle vit à Los Angeles dans le quartier d'Inglewood. Dans les premières saisons, elle travaille dans une sorte de centre d'aide, de soutien scolaire aux collèges défavorisés de son quartier.
Ce serait bien de faire de l'aide aux collèges favorisés
pourquoi
aussi.
Pourquoi pas. Et alors dans le premier épisode de la web-série, elle livre une sorte de programme pour son projet. Le programme c'est « Je suis une femme, je suis noire, je suis bizarre », donc « Black and awkward », et ce sont les pires catégories dans lesquelles on puisse être aujourd'hui. Ça, c'est le programme de départ. Et toute la série s'acharne, enfin, essaye en tout cas de jouer les trois catégories et de les retourner un petit peu contre les préjugés et en faire des motifs de comédie et d'empathie pour les spectateurs. Donc, c'est une femme, tout d'abord. Donc là, c'est vraiment la forme très classique des séries féminines, un peu la loose amoureuse, où on a des dates, où ça marche pas. Donc,
des rendez-vous.
On voit toutes les copines.
Quand vous dites date, vous voulez dire rendez-vous.
Oui, exactement. Qui sont demandées en mariage, qui, elles, ont des bébés et nous, on n'en a pas. Bon, ça, c'est une forme très classique de la série américaine. Moi, bon, j'avoue, je m'en lasse pas trop. Ça, c'est le côté plaisir coupable. Bon, il y a quand même une certaine liberté de ton, et notamment sur la question sexuelle féminine qui est assez réjouissante, donc pour le coup ça fonctionne assez bien. Ensuite il y a surtout la question de je suis noire qui moi je trouve est très intéressante dans la série puisque tous les personnages de cette série sont noirs. C'est vraiment une série communautaire qui a d'ailleurs été créée selon les dires même de la créatrice pour la communauté noire américaine. Et en fait, on se rend compte que dans la série, la question noire, elle se pose uniquement pour les autres, c'est-à-dire pour les blancs. Par exemple, pour les blancs qui travaillent avec Issa, dans le centre où elle fait du soutien scolaire, elle est l'espèce de black de référence pour toutes les questions de l'argot, de quand ça va pas, les gamins, parce que dans le quartier où elle est, évidemment, dans les collèges défavorisés, il y a 90% de personnes qui sont des personnes afro-américaines. Ça, c'est extrêmement drôle pour des spectateurs français de constater à quel point la question raciale entre guillemets, en tout cas la question des gens racisés ne se pose absolument pas dans la société américaine, si, mais en tout cas dans la façon dont on la représente dans cette série, c'est intéressant, notamment sur la question amoureuse, parce que dès que se pose la question potentiellement d'une mixité entre les couples, il n'y en a pas, en fait, ça n'existe pas. Elle n'a des rendez-vous qu'avec des hommes noirs, elle ne couche qu'avec des hommes noirs. À un moment donné, son amie, une avocate, il se pose la question de rencontrer un homme qui est asiatique, et qui est métisse asiatique afro-américain, et elle dit « Ah non, non, j'ai pas le temps de lui apprendre comment on fait à manger, ce que c'est ma culture et tout. » C'est un peu drôle, mais c'est aussi une manière d'évacuer totalement la question, et je trouve ça assez intéressant. Et enfin, étrange, donc awkward, c'est un personnage assez comique qui a un corps, elle est à la fois très belle et extrêmement burlesque dans son fonctionnement, que je trouve assez agréable, surtout pour les femmes, et elle est tout le temps à la marge, donc économiquement c'est la catastrophe, parce qu'elle finit par perdre son travail, donc elle est à moitié taxi, à moitié concierge dans un immeuble pour garder un appartement, on sent que c'est un peu la loose, et en même temps elle est toujours aussi branchée, parce qu'elle va dans les boîtes, elle écoute du hip-hop hyper pointu, elle rencontre des artistes, et ça je pense que c'est assez réaliste sur une forme de la société américaine à Los Angeles, où on est à la fois dans une grande indigence économique, et en même temps on est quand même in, on est quand même dans les milieux qui comptent. Je pense que c'est assez intéressant. Et puis, son dernier truc awkward que j'aime beaucoup, c'est que, comme on entendait dans le petit extrait, elle rappe toute seule. C'est son truc. Donc, elle rappe toute seule devant son miroir dans la salle de bain. Ça donne vraiment des séquences très drôles. Elle rappe extrêmement bien. Et elle rappe beaucoup sur sa sexualité, notamment. Et voilà, ça rejoint le côté un peu pastille artisanale du début. Il reste de cet esprit. Donc, tout ça fait que je trouve qu'Insecure est une série à voir.
Et depuis, vous aussi, Lucille Comeau, vous rappez seule dans votre salle de bain. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une forme d'identification. Toute la série est disponible en replay sur OCS Go.
Et la saison 3 est en cours.
Tout à fait. Donc c'est un par semaine, j'imagine. C'est quoi comme format, 26 minutes ?
Oui, c'est ça, c'est 22, une demi-heure 26, à peu près, oui. Un petit peu moins d'une demi-heure.
Voilà, Insecure, coup de cœur de Lucille Comeau.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Et nous allons parler à présent de Avant l'aurore, de Nathan Nikolovitch. C'est un film que vous n'avez pas vu, Maëlle Jodet.
Je me suis trompée de salle.
Non, vous êtes trompé de sommaire. Vous avez inventé que nous parlions d'un autre film ce soir.
Déni de réel, désolé.
Eh bien, vous allez voir ce que vous avez raté, puisque nous allons parler ensemble et sans vous de Avant l'horreur de Nathan Nikolovitch, dans lequel on va suivre le quotidien très décousu et très stupéfiant de Mirinda, un Français prostitué qui vit à Phnom Penh. Le passé Khmer Rouge, évidemment, est toujours très présent. Et puis, il va y avoir aussi une petite fille, jeune fille, Pana, qui va débouler dans sa vie.
The card says, at night, many stars, thousand.
Full face.
Yes, full face.
How much cost me?
$3,000.
Tu restes combien de temps, Phnom Penh?
Je repars demain.
Who are you? You speak English?
Con đập gặp bom mắt ba nọt.
Hả?
No information, no food.
Bom bom trăng đô la.
Cà bị trời ní ấy, miền khám ê mùi. Ất khá là chạy từng ớ. Nấu sáng nghiêm.
Vì lưu phụng phô lông chân.
Moi, je sors pas de la caisse à la gamine non plus, c'est sûr. Allez, casse-toi, ferme la fenêtre, là.
Avant l'aurore est sorti sur les écrans mercredi. C'est un film de Nathan Nikolovitch et c'est Lucille Como qui commence à nous en parler.
Alors, pas facile de décrire cet objet parce que ce que vous avez donné comme élément, à savoir le film
c'est
un
vrai,
peu de prostitution, le film. Oui, tout à fait, mais ça
ne
donne pas
rien.
Grand chose de ce que c'est que ce film. Bon, il faut déjà poser peut-être une sensation que j'ai eue en le voyant, c'est vraiment un effet de sidération devant l'acteur principal qui s'appelle David Dingeo, qui apparemment a joué un peu dans le cinéma érotique, un peu dans le cinéma fantastique italien, il a un peu joué chez Dario Argento notamment, mais qu'on
Chez Asia Argento aussi.
Et qui est au-delà de sa condition de travesti qui forcément ajoute quelque chose absolument incroyable physiquement. Je ne saurais pas trop le décrire. Il ressemble un peu à Klaus Kinski quand même. Moi, j'ai pensé à ça dès le départ. Mais en extrêmement maigre, il a quelque chose à la fois de maladif, de fort. C'est un physique qui, de toute façon, attrape le regard. Donc, la première scène, bon, il faut le dire, c'est un format carré qui fait qu'on ne voit jamais vraiment les espaces, qui rajoute un peu à l'effet d'étonnement et d'inquiétude qu'on peut avoir. C'est une scène de fellation non simulée, donc de ce personnage qui est un prostitué travesti à Phnom Penh sur un homme cambodgien. Toutes les situations posent question dans ce film. Il y a un nombre d'ellipses incroyables qui fait qu'on ne sait absolument pas combien de temps dure l'action. C'est un film extrêmement étrange. Par ailleurs, comme il y a des questions de langue, etc., on ne sait il y a très peu de dialogue, donc on ne sait pas vraiment quels sont les rapports entre les personnages. Comment dire ? Il y a plusieurs pistes qui s'offrent, en fait. Il y a à la fois la piste du film de prostitution, et donc ce héros qu'on suit, quand même, qui est Miranda, qui est le personnage principal. Il y a également la question Khmer, qui est extrêmement étrange. Alors, le réalisateur raconte qu'il a fait beaucoup d'enquêtes, qu'il a lu beaucoup, qu'il a traversé tout le Cambodge pour se documenter. Je dirais qu'on sent le poids de ce qu'il a appris, de ce qu'il connaît de ce lieu, sans que ça ne nous donne aucune information sur ce qui se passe. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Judith, dont on ne connaît pas exactement la relation à Mirinda, au personnage principal, qui est... On ne sait pas si elle est journaliste, enquêtrice, juge. En tout cas, elle cherche des anciens personnages des anciens tortionnaires. Elle essaye de les débusquer pour, on ne sait pas tellement, pour les traîner devant la justice, pour les interroger. On ne sait pas exactement. Et ce personnage surgit, puis part, puis elle ressurgit. On ne sait pas pourquoi. Ce qui crée des situations vraiment très, très étranges. Et puis, il y a en effet le personnage de cette petite fille, avec laquelle le héros a une relation totalement ambigu. Il y a par exemple une scène où en fait elle le suit partout. Dans un premier temps, c'est totalement subi comme compagnonnage puisque lui, il sait pas comment s'en débarrasser. Donc elle le suit partout et puis elle le suit notamment dans un hôtel où il se rend compte qu'elle se prostitue, puisqu'elle est toute petite, hein, mais elle rentre dans une chambre avec un homme occidental, et son regard est illisible. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si il désapprouve, s'il est inquiet pour elle. On peut imaginer qu'il va débouler dans la chambre pour... On ne sait absolument pas ce qu'il pense, ce qui crée une sensation de trouble sur cette situation insupportable pour nous, qui questionne beaucoup. Donc moi, je ne sais pas exactement ce que j'ai pensé du film, parce que ça m'a beaucoup... Ça m'a quand même un peu traumatisée, notamment sur la question de l'enfant. Et en même temps... Il y a une forme de bienveillance, il y a une forme d'empathie, d'amour entre les personnages dont je ne saurais même pas dire à quoi elle tient, qui fait qu'il est supportable. Mais c'est dur quand même.
Lily Bloom sur Avant l'aurore.
Moi, ça m'a justement intéressé, ce côté non explicatif, non psychologique. C'est ce que j'ai trouvé comme étant extrêmement moderne dans le film. Pour moi, le film ringardise tout un tas de films en quelques minutes quand il débarque. Parce que pour moi, alors une des premières qualités du film, c'est que quand il commence, on n'a pas l'impression qu'un film commence, on a l'impression de débarquer. Vraiment en Asie pour la première fois en tant qu'Européen, quand on est complètement déboussolé, alors particulièrement quand on arrive de nuit dans des rues interlopes avec de la prostitution, à la fois d'être avec tous les sens en éveil, extrêmement vivant, avec une acuité accrue à tous les sons, à tous les odeurs, et en même temps extrêmement en danger, parce que c'est souvent des pays où il y a cette croyance dans le karma qui donne cette sensation qu'on peut vraiment crever dans la rue et que tout le monde sera indifférent à notre mort. Il y a vraiment tous ces sentiments paradoxaux que l'on ressent pendant tout au cours du film, et même au fil de ces ellipses, on est tout le temps en alerte. Et moi, cette partie-là m'a beaucoup intéressée. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on est surpris de la même manière que le personnage principal de Mirinha, c'est-à-dire que on avait l'impression dans le premier élan du film que ça allait être une sorte de documentaire ultra réaliste, un peu opportuniste sur ce personnage de travesti prostituée qui est follement cinégénique. Et puis d'un seul coup, il y a une jeune fille, une petite gamine qui déboule dans sa vie et paf, le film change, prend la tangente et on débarque sur une interrogation pour moi qui est sur la question de la transmission et qui se déplie en deux personnages. Donc il y a le couple pour moi du travesti avec la jeune fille qui va être plutôt le versant éclatant où c'est une sorte de salvation christique où finalement ils vont se sauver l'un l'autre, s'arracher leur chaîne. Et de l'autre côté, le personnage de Judith qui représente qui travaille, je ne sais plus, pour le tribunal international à Phnom Penh, et qui est très cynique au point d'utiliser à un moment la petite Pana, elle pense utiliser la petite Pana à ses fins sans aucun remords. L'autre personnage, qui est un fils de criminel, si j'ai bien compris, qui est empêtré dans les secrets de famille, dans cette violence, dans ces cryptes. Et dans ce coup, c'est l'autre versant plus politique et la nécessité que la mémoire soit réveillée et juste.
Alors c'est vrai que David Ninjeo, qui est quand même l'objet, le corps incroyable qu'on a presque du mal à regarder par moments, parce qu'il y a quelque chose à la fois de douloureux, quelque chose d'assez fascinant aussi. Et c'est vrai que pendant longtemps, que je ne connaissais pas ce comédien, je me suis dit qu'il était allemand, jusqu'à ce qu'il parle français sans accent, parce que c'est sans doute la ressemblance avec Klaus Kinski, mais avec d'autres acteurs, enfin il a un corps très étrange. Il était l'invité d'Aude Lavigne un mardi soir sur France Culture. Je propose de l'écouter parce qu'il dit des choses assez précieuses sur le film. Et c'est vrai que c'est sur son corps vraiment que repose le film. Alors il en est co-scénariste également, ce qui n'est pas rien. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, alors qui n'est pas toujours très agréable à regarder, on va dire ça comme ça, c'est que le réalisateur ne nous donne rien. Quand vous parlez d'ellipse, c'est presque un euphémisme. Parce que mais du coup, ça nous entraîne à faire attention aux gens qu'on regarde, ce qui est quand même une leçon un peu rudimentaire dit comme ça, mais qui est belle à vivre comme expérience au cinéma. C'est-à-dire que si on veut comprendre ce qu'on a sous les yeux, il faut qu'on donne, il faut qu'on suive, il faut qu'on imagine, un peu comme dans la vie. Hein. Quand on regarde quelqu'un, a priori, on n'a pas son CV et on ne sait pas d'où il vient. Mirinda, on ne nous dira rien de son passé. C'est à nous de le lire, peut-être sur son corps, dans ses yeux, dans ce regard, effectivement... indéchiffrable, oui, quand il voit la petite Pana, 10-12 ans, hein, qui rentre dans une chambre d'hôtel avec un occidental un peu nettement plus âgé, est-ce qu'il se dit tel père, telle fille, enfin il y a quelque chose comme ça, ou c'est comme ça, de toute façon ici on peut pas faire autrement, ou est-ce qu'effectivement il va débouler? Évidemment nous on espère en petits occidentaux tranquilles qu'il va débouler pour faire un scandale, il ne le fera pas, mais c'est vrai que le duo qu'ils forment tous les deux, c'est quand même un des plus beaux duos que j'ai vu au cinéma, sur des périodes assez longues quand même. Il y a des choses dans ce film que j'ai moins appréciées, mais je pense qu'on peut pas ou on doit pas passer à côté de ce film. Ce que j'ai moins apprécié, pour développer un tout petit peu, c'est que politiquement, on sait pas où il se situe, que sociologiquement, on sait pas ce qu'il nous dit tout à fait. Quel est le rapport au réel du réalisateur dans ce film, sachant que voilà, c'est quelqu'un qui part à l'étranger, qui va faire un film. Qu'est-ce qu'il nous ramène à nous? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? On n'en est pas sûr. Lily Bloom?
Il est quand même ancré dans le réel. Je veux dire, la famille qu'il présente, c'était en pleine époque où il y avait toutes les manifestations contre le mariage pour tous, etc. Et c'est là que lui est venue, par exemple, l'idée d'une paternité, une paternité différente pour ce personnage de travesti. Donc, si, on sait quand même de quoi il parle. Et moi, c'est une des choses qui m'a fascinée, c'est cette paternité chez cette créature, parce que là on est au-delà vraiment du travestissement, il est tellement toujours en mutation, ce personnage tellement étrange, tellement théâtral, que finalement de le voir père, et un magnifique père, ça je trouvais que c'était une magnifique réponse à ces manifestations-là. Il y a ça, je trouve que par exemple la scène dont vous parliez tout à l'heure sur cette petite enfant qui rentre dans une pièce, on ne voit pas ce qui se passe. Pour moi, les quelques minutes qu'ont duré cette séquence, elles sont insoutenables et c'est une dénonciation de la prostitution. Ça parle d'un état, d'un pays, du Cambodge, de sa nécessité, voilà, sortir les cadavres.
C'est pas aussi simple que ça. C'est pas une dénonciation de la prostitution. Alors parce que c'est pas aussi clair. Lucille, comment vous en pensez, quoi?
Non, mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand c'est pas clair. Oui, et ce titre, mais je dis tout le temps la même chose, en fait, sur les films. J'aime pas trop la fin, parce que je trouve qu'elle simplifie énormément.
Sortez avant
le rapport
la fin
entre
des films.
Mais oui, mais
un
je
conseil.
Sais, c'est ça qu'il faut que je fasse.
10 minutes avant. Surveillez votre montre. Ou n'y allez pas, comme
j'ai
dit. Non, vous auriez
raté
quelque chose.
Ça détermine trop leur rapport. Ça simplifie beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est l'indétermination totale de ce personnage principal. Et du coup, je trouve que la fin est moins intéressante. Peut-être que c'est un film qui ne devrait pas être un long métrage. Je le trouve trop long. Je pense qu'il y a... c'est pas un récit. Il n'aurait pas dû essayer d'être un récit. Je pense que juste être un tableau extrêmement troué, avec des scènes par-ci par-là, ces lieux absolument incroyables, interlopes, on sait vraiment jamais où on est. Même les scènes de club, de café, de boîte, on ne sait pas si on est dans un coulisse, dans des toilettes, dans la salle de danse principale, au bar, c'est impossible de déterminer. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment dans le film. Dès que ça se détermine trop, dès que le passé surgit, parce que bon, certes son passé ne surgit pas, mais celui de la petite fille surgit à un moment donné, tout ça, ça m'intéresse beaucoup moins. Dès qu'il y a détermination, ancrage des personnages, ça fixe beaucoup les choses, l'image m'intéresse moins, et c'est vrai que j'ai été déçue par la fin.
Bon. Est-ce que ça vous fait poser des questions, Muriel Joudé, ce qu'on vient de dire sur Avant l'aurore?
Oui, mais j'ai vu le film, hein, c'était une blague.
D'accord. Alors, votre analyse?
Je pense comme Lucille, j'aime pas trop la fin. non, ça donne envie, en fait. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, je me rends compte que j'arrive pas à me faire une idée du film, alors que je pense que sur certains d'autres films, on peut tout de suite catégoriser un film qu'on n'a pas vu là. Ça reste très flou pour moi, donc... Il me semble que c'est un film intéressant. Donc je recommande aux auditeurs d'aller le voir.
Ouais, c'est vrai que c'est un objet indéterminable. Et on ne voit pas souvent des films comme ça dans une année de cinéma. Pourtant riche de sorties de 12 à 15 films par semaine. C'est pour ça qu'on a choisi celui-là et pas celui que vous avez vu à la place, qui est Fortuna.
Oui, n'en parlons pas.
Ah bon, d'accord. Ok, vous en auriez dit du mal en plus.
Ah oui.
Ah c'est vrai.
Ouais, donc j'étais contente.
Bon, alors on va...
D'y échapper.
D'accord. On ne va pas parler de Fortuna. Mais on recommande très vivement Avant l'aurore de Nathan Nikolovitch, sorti sur les écrans ce mercredi. Et Et avant de conclure tout à fait, c'est l'heure de retrouver Sarah Dion pour le jeu de la dispute et nous rappeler d'abord la question d'hier au soir, Sarah.
La question était, à quel siècle est apparu le courant pictural du caravagisme ?
Samuel, je déyétais, donc ça, elle pourra le dire.
La réponse était au XVIIe siècle.
Eh oui.
Eh oui, vous y étiez.
Bah oui.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour la rétrospective Bernard Venet, qu'on peut voir au Musée d'art contemporain de Lyon jusqu'au 6 janvier. Quelle est la question ?
Que représente la célèbre sculpture d'Erwin Wurm située à l'entrée du Musée d'art contemporain de Lyon ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter notre émission ou vous abonner à son podcast, d'ailleurs. Lundi à 19h, dispute spectacle vivant, nous serons en compagnie de Marie-Josée Sirage, Jean-Christophe Brianchon et Philippe Chevillier. Nous parlerons du procès d'après Franz Kafka, mise en scène Christiane Lupa, à découvrir jusqu'au 30 septembre au Théâtre de l'Odéon. Et d'ailleurs, par la magie de la radio, je vous donne rendez-vous lundi à 20h à l'Odéon pour une scène imaginaire de France Culture que j'aurai le plaisir d'animer avec Christiane Lupa et des comédiens qui liront les textes choisis par le metteur en scène polonais. Fin de la parenthèse. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la maison de la radio ou sur celui du Théâtre de l'Odéon. Nous parlerons également de Une maison de poupée, d'après Henrik Ibsen, mise en scène Lorraine de Sagazan, c'est en ce moment au Montfort, et puis Révélation de Leonora Miano, mise en scène par Satoshi Miyagi, c'est au Théâtre de la Colline, et Marie-Josée Sirage, qui elle a un cœur, nous dévoilera son coup de cœur pour Conversation d'Alain Cavalier et Mohamed El-Khatib.